Yaws and Shaw. Boys, ils sont les slides, la musique est zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les jeudis matins de 9h à 11h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Est-ce que je peux t'offrir un poco?
On travaille moins qu'ils ont terminé. Faut qu'on travaille plus.
Gabriel Nadeau-Dubois m'a traité de Duplessis.
Et c'est exactement ce qu'on va continuer de faire.
Car les Canadiens veulent savoir la vérité!
Bonjour tout le monde, vous êtes de retour. On est de retour.
On est de retour.
On est de retour ensemble. C'est juste la politique, votre émission politique et d'analyse. HS 94.3, tous les mercredis, 14h, toujours fidèle au poste. Ça sera encore notre plage horaire pour cette nouvelle saison. Deuxième saison d'hiver, parce que là, on avait la saison d'automne, saison d'hiver qui se poursuit. Un peu comme tout le monde en parle, ça se poursuit. Et ensemble, on va toujours découvrir d'autres pans de la politique québécoise, municipale, fédérale, ensemble pour les prochaines semaines, en tout cas du moins jusqu'à la fin de la session. Et j'ai avec moi...
Antoine Pellanraté!
Oui, j'allais t'introduire, mon cher, qui sera avec nous, notre animateur maison, mais qui parfois sera remplacé par d'autres personnes. D'ailleurs, on aimerait ça un jour. Là, les consignes nous limitent à deux pour cette semaine. La semaine prochaine, je crois que ça change. On va pouvoir amener au moins trois personnes, trois, quatre. Donc là, on va pouvoir amener d'autres analystes politiques, d'autres panélistes. Parce que oui, dans mon langage radio-canadien, un peu fabulatoire, je m'imagine un jour remplacer... Patrice Roy.
Bon, on est toujours un peu à l'âge de pierre avec les plexiglas et tout ça.
Oui, les plexiglas, qu'on sait très bien qu'ils ne servent foutrement à rien.
À rien, ouais. Finalement, on peut être infecté par des plus petites gouttelettes qu'on pensait.
Eh oui.
Fait que, bon, ce qui nous sépare...
Vive Omicron. Vive Omicron, comme diraient nos amis français. Mais pour de vrai, Omicron en a mis toute une dans notre bas de laine durant le mois de décembre. Et ça s'est poursuivi tout le long du mois de janvier avant qu'on commence notre émission. D'ailleurs, je ne savais pas comment commencer cette émission parce qu'il y avait trop de choses à dire et c'est pour ça que j'ai fait un court petit montage avec tout ce qui s'est passé depuis le nouveau couvre-feu. On regarde ça à l'instant. Ben, on regarde, on écoute.
Les salles de spectacle sont fermées. On n'a pas le droit d'aller visiter ses amis. Pourquoi on mettrait un couvre-feu?
Un voyage organisé, 153 influenceurs et des stars de la télé-réalité. Le premier ministre canadien évoque, dans un langage fleuri, une bande d'idiots.
Quand une gang de sans-dessin qui décide de partir comme des ostragos en vacances, c'est extrêmement frustrant, c'est démoralisant.
C'est notre premier voyage en groupe, puis on va en faire plusieurs comme ça.
Le travail du docteur Arruda est de plus en plus remis en question par des analystes qui lui reprochent notamment d'être en retard sur la science. Est-il toujours la bonne personne pour diriger la santé publique du Québec?
Oui.
En sous-question.
C'est votre seule réponse?
Le docteur Horacio Arruda a annoncé sa démission.
Les propos récents tenus sur la crédibilité de nos avis et sur notre rigueur scientifique causent sans doute une certaine érosion de l'adhésion de la population. J'estime approprié de vous offrir la possibilité de me remplacer.
Maintenant, je veux vous présenter le docteur Boileau.
C'est un homme compétent, qui a rendu des grands services aux Québécois, qui était un excellent vulgarisateur. Mais là, après 22 mois, je pense qu'il était temps d'amener quelqu'un avec la nouvelle énergie qui vient continuer son travail.
Et avec les précautions qui sont prises, que nos écoles sont et seront sécuritaires.
Bonne nouvelle, comme promis, on enlève le couvre-feu lundi prochain, mais...
Je
comprends et je sens cette grogne de la part des Québécois qu'on travaille actuellement sur une contribution santé qui va être chargée à tous les adultes au Québec qui refusent de se faire vacciner.
Un peu comme quelqu'un qui passe une lumière rouge, là, qui dit, bon, il va avoir une amende à payer.
Mais elle va être de combien?
On va déposer ça dans le projet de loi.
Le fait qu'il y ait plus de 100 000 soldats aux frontières de l'Ukraine. Et donc, dans les circonstances, on prend la menace russe très au sérieux.
Oui, nous craignons un conflit armé en Ukraine. Nous allons continuer nos efforts diplomatiques, nos menaces de plus de sanctions sur la Russie.
Il y a vraiment eu un vase communicant. La coalition a perdu 4 points d'un côté, puis tout ça a été récupéré par le Parti conservateur.
Parce qu'il y a quelque chose de fascinant avec ce mec-là. On continue de le sous-estimer, puis je pense qu'on va avoir des surprises avec lui.
Pour donner un break à nos restaurateurs, vous savez que là, il y a plusieurs restaurateurs qui menacent d'ailleurs d'ouvrir leurs portes contre la loi dans les prochains jours. Moi, ça m'inquiète. Là. Il n'y a plus de cohésion sociale au Québec. Il faut à un moment donné là, que le premier ministre comprenne que ces mesures là, abusives ne passent plus la rampe.
La propriétaire de cette pâtisserie de Saguenay défie les règles et a rouvert sa salle à manger jeudi malgré l'interdiction.
J'ai toujours payé mes impôts et c'est pas de ma faute. Si le système est à terre.
On a appris ce matin que l'Ontario ouvrait le 31 janvier. Donc, M. Legault, je pense que ce serait le temps là, qu'il fasse les modifications pour encourager nos commerces.
Est-ce qu'on aurait eu le courage de le faire comme Mme Ariot l'a fait? Peut-être pas. Est-ce qu'on encourage son geste? C'est sûr qu'on va le soutenir, évidemment.
Je comprends très bien. Là, puis, mais il reste que, pour l'instant, on ne peut pas se permettre d'assouplir davantage.
Je vous le dis là, je ne serai pas ici en avant. Ils le savent très, très bien. Je ne jouerai pas le jeu du politique si je ne suis pas confortable avec la décision. Le jour où ils feront de la bullshit, excusez-moi de utiliser ce terme-là, monsieur le ministre, je m'excuse. Le jour où je sentirai c'est de la bullshit, mais le docteur Arruda, il ne sera pas là. Parce que...
Ouh! Donc, on se demande, est-ce qu'il y a eu de la bullshit?
Est-ce que c'est de la bullshit? Écoute, j'ai fait beaucoup d'heures de travail pour ça et pour réaliser que dans le fond, c'est beaucoup de contradictions. Hein? On dit qu'on appuie le docteur Arruda, mais après ça, on dit qu'on était dû pour un changement, que c'est nécessaire, mais que il est parti. En tout cas, c'est des contradictions partout. On pense que le Parti conservateur, c'est rien, mais d'un côté, les deux grands partis fondent. C'est ça qui a marqué notre mois de janvier.
Oui, ça me rappelle quasiment un peu le départ de Régis Labeaume, là, quand Geneviève Guilbeault disait...
Guilbeault, tu l'avais.
Guilbeault, je l'avais bien. Disait justement, bon débarras, là, on est bien avec ça, ça fait changement, une bouffée d'air frais, mais juste avant, on disait, on est prêt à collaborer avec le maire de Québec. Pour,
c'est ça. Oui, non, c'est ça.
C'est ça de la politique.
Oui, c'est ça de la politique. C'est dès qu'on n'a plus l'occasion, dès qu'il ne faut plus qu'on mette des gants blancs, on ne les met plus. C'est ça qui est le fun.
C'est utilitaire.
C'est utilitaire. Et là... Antoine, il va falloir nous en parler plus abondamment, mais tout ça, c'est un peu changé parce que oui, les extraits se terminent. J'ai terminé de monter ça la semaine dernière, donc les extraits se terminaient et le Québec était à feu et à sang concernant les mesures sanitaires. Puis là, c'était est-ce que on va tous fermer? Puis là, il y a une cellule de crise qui s'est réunie et là, on a décidé de mettre
Permettre certaines réouvertures là. Bon, les salles à manger des restaurants d'ailleurs vont pouvoir rouvrir sous certaines conditions, évidemment, je pense 50% de capacité dès le 31 janvier. Et ben les gens aussi vont pouvoir se rassembler à 4 personnes ou 2 bulles chez eux, puis il va y avoir des sports civils et parascolaires réservés aux jeunes
de moins 18.
De moins 18 ans, de 18 ans et moins, de moins 18 ans qui reprendront aussi lundi là, et aussi les salles de spectacle et les cinémas, eux vont pouvoir rouvrir à partir du 7 février. Donc pour les gens qui pleurent
les gyms
et qui sont tannés de s'entraîner dans leur sous-sol avec un tapis pas assez mou, pas d'appareil, pas assez de poids, ben il va falloir attendre encore un peu. Hein, ça me rappelle un peu le sketch dans le Bye Bye 2021 quand on demandait comment ça se fait, c'est Émilie Bière oui. qui disait ça. Comment ça se fait que nous, on est majeurs, les cégeps ne peuvent pas rouvrir, puis là, tu as son père qui lui dit, ben, ah. écoute, vous êtes majeur, c'est comme moins important.
On rentre dans les statistiques adultes.
On rentre dans les statistiques adultes, fait que c'est moins important, tu sais.
C'est ça. Mais c'est vrai. Enfant, adulte, souvent, on fait beaucoup de contradictions, mais de différences, comme si c'est normal, quelque part, parce que, tu sais, sauf que entre un enfant de 17 ans et un adulte de 18, il n'y a pas une grande différence, c'est à peu près un an.
C'est sûr qu'avec l'âge, il y a une capacité d'adaptation qui augmente.
Ben oui,
ça permet. Il y a une flexibilité qui vient avec ça, évidemment, mais nous autres aussi, je veux dire, entre 17 ans et 18 ans, y a-t-il une si grosse différence que ça pour que les gens à 19 ans, mettons, puissent pas. Bon, ça, c'est tout est relatif. Là. Il faut qu'il y ait. C'est un peu la règle du 60%. T'sais, en bas de 60, est-ce qu'on passe ou est-ce qu'on passe pas?
Ouais.
Même, il faut tracer la ligne à quelque part. Fait qu'il peut y avoir une ambiguïté, mais.
Non, ben c'est ça. Donc, les mesures qui s'assouplissent, probablement que Mme Ariot, hein, la fameuse personne dans l'extrait qui disait « c'est pas de ma faute », bon, elle, c'est probablement qu'elle a fait changer un peu la donne. Elle a d'ailleurs été interviewée à « Tout le monde en parle », donc et on voit que son opinion a pris de l'ampleur, puis probablement que le ras-le-bol en général, puis il n'y a pas un téléjournal régional qu'on écoutait qui n'avait pas des restaurateurs ou des gens un peu fâchés. Donc, tout ça, je pense, mélangé. Le premier ministre, François Legault, pas eu le choix, je crois, d'ouvrir, même si, et on a parlé avant l'émission, même si on est à couteau tiré dans le réseau de la santé, on ne peut plus respirer, il faut quand même ouvrir parce que les gens sont écœurés.
Oui, le nombre d'hospitalisations commence à peine à diminuer, puis on se retrouve déjà à assouplir les mesures sanitaires.
Bien, c'est ça.
Alors qu'il y a quelques semaines, même pas, on parlait d'une taxe pour les non-vaccinés. On discutait
ben oui.
même de l'idée de l'obligation vaccinale, tout simplement. Donc, tu vois qu'il y a un changement de paradigme qui s'est fait extrêmement rapidement. Et tu sais, pour beaucoup moins d'hospitalisation que ça, l'automne passé, on a fermé plusieurs services. On doit fermer les restaurants, les bars, les cinémas. Et là, on est toujours dans une situation catastrophe. Et là, tout d'un coup, les mesures s'assouplissent. Donc oui, ça laisse croire en fait que c'est des motivations politiques, mais pas juste politiques, mais des motivations populaires qui font que aujourd'hui on ouvre ce qu'on est capable d'ouvrir.
Oui, ce qu'on est capable d'ouvrir, mais avec le passeport vaccinal toujours, c'est important de le préciser parce que on disait
et trois doses.
On veut pas aller finalement on donne le contrat de mettre une contribution santé dans un projet de loi. Je vois pas ça comme un revers nécessairement là du premier ministre là. C'est probablement juste qu'il y a un concours de circonstances justement, il devait on se trouve en ce moment à pénaliser des gens vaccinés et c'est pas nécessairement ce qu'on veut mettre de l'avant. Donc je pense que c'est ça là. Puis les gens vaccinés, ben ils commencent à être écœurés, puis ils ont plus de moyens, puis ils ont plus l'argent de continuer dans ça. Puis c'est ça.
Et voilà. On entendait d'ailleurs il y a quelques jours, quelques semaines, Pfizer, Moderna dire que ouais, ben pour 2022, on va avoir des vaccins contre Omicron. Mmh. On parlait de mars, on parlait du printemps. Là, l'idée, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de nouveaux variants qui se pointent le bout du nez alors qu'on commence à peine la campagne de vaccination contre Omicron. Donc il y a comme un. On est sorti du tunnel, mais il y a d'autres tunnels en avant de nous autres. Donc là, on va essayer de les éviter.
Et ben on peut continuer vers des petites nouvelles qui se touchent nous touchent aujourd'hui et c'est très très dommage d'apprendre ce matin que le tout nouveau maire de Sainte-Brigitte-de-Laval est décédé subitement. Visiblement c'est assez triste parce que le monsieur il venait juste d'être élu. Par contre, il a été conseiller municipal depuis 2013, si je ne m'abuse. Donc, il a pu vivre la vie municipale, la vie de conseil municipal.
On a oublié de mentionner son nom, c'est Alain Dufresne.
Oui.
Et il laisse dans le deuil sa femme. Il avait 65 ans d'ailleurs.
Oui.
Sa femme, ses 4 enfants et ses 10 petits-enfants. Donc, il a étendu sa progéniture
dans son petit village de
8000 habitants.
Oui, mais monsieur, il est aussi un vendeur de. Il était dans l'éclairage. Mm-hmm. D'ailleurs, il a eu des grands contrats, d'ailleurs, pour le contrat du Club Med de Charlevoix. Donc ça, c'est un entrepreneur prolifique de la région, en plus d'être conseiller et nouvellement maire. Et là, fait particulier, c'est sa fille qui est mairesse suppléante. Est-ce qu'elle est... Je ne sais pas si ça tombe à un bon moment dans son parcours politique d'être mairesse suppléante son père, qui n'est plus là. Je ne sais pas si c'est, ça va être pas. En tout cas, on espère que la mairie de Sainte-Brigitte va trouver une solution à tout ça. Visiblement, les drapeaux sont en berne, mais...
C'est quand même assez surprenant. Ça nous a tous un peu choqués aujourd'hui qu'on a vu cette nouvelle-là, de voir que ben, les élections municipales viennent tout juste de se terminer. Mm-hmm. Hein, à 65 ans, on ne s'attend pas à ça. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a des présidents qui ont au-dessus de 70 ans puis qui vont ouais, pouvoir. On a des premiers ministres également qui s'approchent de ça. Donc, c'est toujours surprenant, évidemment, à cet âge-là.
Oui, il avait 65 ans seulement. Donc, il faut croire que, tu sais, quand on dit ça arrive à tout le monde. Là. Et la COVID n'est pas en lien, qu'on dit à la municipalité. La COVID n'a aucun rapport avec.
C'est mort subite. C'est ça les termes utilisés.
Oui, mais on peut mourir subitement de la COVID aussi.
Ben, on a le droit. Moi, j'ai le droit.
On a le droit. On ne sait pas c'est quoi les circonstances, mais bon. Sinon, après ça, ben, on s'en retourne un petit peu plus dans la politique provinciale qu'on a vue depuis quelques semaines. Pas plus que quelques semaines, depuis quelques mois, là, on voit déjà, puis je vais te lancer la balle, Antoine, les libéraux, ça va pas bien, hein, avec Dominique Anglade.
Eh bien, Dominique Anglade se défend là, d'avoir du mal à trouver des candidats pour les prochaines élections. D'ailleurs, je le rappelle, le prochain scrutin au provincial, c'est le 3 octobre.
Ben oui.
Et là, ils ont lancé, le Parti libéral a lancé un site web pour le recrutement, pour essayer de dénicher, c'est ça, ces candidats-là. Donc, voilà, les gens ont l'impression que la faiblesse qu'on a vue depuis quelques années au PQ va maintenant se répandre au Parti libéral et que ça, c'est un peu la pointe de l'iceberg, là. Tu sais, dans un site Internet pour trouver des candidats. C'est sûr qu'il y a toujours eu des sites web qui ont été impliqués dans le recrutement, mais de voir un site de cette ampleur-là, un projet de cette ampleur-là, ça, on dirait que ça... On peut voir, c'est ça, la pointe du iceberg, comme quoi le Parti libéral pourrait avoir des difficultés de recrutement. Et ça, si un parti qui a des difficultés de recrutement, ça peut aussi être un mauvais présage pour les difficultés d'obtenir non pas des candidats, mais des votes aussi.
Oui. Bien, Dominique Anglade fait aussi des investitures libres dans chaque circonscription. Donc, il n'y aura pas de circonscription réservée à des étoiles pour les libéraux à la prochaine élection, mais à part les députés sortants, là, en l'espérant. C'est
comme un processus décentralisé un peu.
Oui, c'est ça. On veut rendre accessible le fait de devenir député au Parti libéral. C'est comme devenu ludique. Je ne sais pas, mais en quelque sorte, c'est une bonne approche communicationnelle compte tenu de la situation dans le parti, parce que ça permet d'ouvrir la porte à plusieurs personnes puis de rendre le Parti libéral moins cloisonné dans sa petite idée, dans son petit congrès, dans son petit... qu'on y avait reproché pendant plusieurs années.
Puis justement aussi, au-delà du site web, Dominique Anglade, et j'ai passé à deux cheveux de me bafouer encore une fois, Félix, Dominique Anglade, elle se dit prête à accueillir d'ex-candidats de Québec solidaire et du Parti québécois au sein de sa formation. Peux-tu avoir une méthode de recrutement plus décentralisée que ça?
Visiblement, moi, en ce moment, Antoine, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas. C'est qu'est-ce qui se passe au Parti libéral pour qu'on en vienne à demander des gens qui viennent de QS? Alors que c'est un parti qui est montant en ce moment. Là. Ben, montant légèrement, mais montant quand même.
Moi, je pense qu'il y a un changement de polarité électorale au Québec. Tu sais, on le sait depuis des décennies, on le sait très bien, ce qui sépare les partis politiques au Québec, si t'es fédéraliste ou t'es souverainiste, puis la gauche et la droite, c'est un peu moins important. Ça arrive en deuxième position dans la réflexion des gens lorsqu'ils arrivent pour voter. Mais là, on dirait que là, il y a un changement. Et là, ce qui importe pour la population québécoise, c'est non pas le fédéralisme ou la souveraineté. Maintenant, c'est le traditionnel gauche-droite centriste. Oui. On se rapproche un peu des tendances européennes. Hein. Fait que on se rapproche d'un système politique un peu plus traditionnel.
On est de retour à la pré-révolution tranquille en termes d'opinion politique.
On a des partis idéologiques davantage que des partis à projet, on dirait.
Oui.
Puis là, c'est comme si le Parti libéral, qui avait profité pendant des décennies de cette polarité-là contre le PQ ou avec le PQ, se retrouve maintenant... c'est un peu son talon d'Achille maintenant. Fait qu'il faut que le Parti libéral trouve sa niche maintenant. Quel genre d'électeurs je veux recruter?
Ouais.
Ben là, on dirait que là, la CAQ est au centre-droit. Il y a le Parti conservateur qui monte tranquillement. Québec solidaire à gauche qui continue à monter et à prendre des votes du Parti québécois. Là, il faut que le Parti libéral trouve une porte de sortie. Ben même pas, une porte d'entrée,
une porte
en fait.
D'entrée,
une niche pour se dire quel genre électeurs, je vais trouver. Parce que si je ne suis pas capable d'avoir mon style de parti qui se distingue des autres, si je ne peux pas offrir des choses que les autres partis ne peuvent pas offrir, en raison du changement de polarité, ben comment je fais pour survivre? Fait que je pense que le Parti libéral est dans le même problème que le PQ depuis quelques années, mais à retardement. Ça arrive juste plus tard, en fait.
Oui, mais on voit qu'ici, comme elle peut pas... Dominique Anglade fait quand même une grande restructuration, ce qui peut être choquant un peu pour un parti au départ. C'est normal que les intentions de vote descendent dans ce cas-là, là, où est-ce que des grosses restructurations. Lorsqu'elle fait, c'est que, bon, elle a idéologiquement changé de bord un peu, mais là, ça suffit pas à faire remonter tranquillement les intentions de vote. Donc, mais moi, je pense qu'en ce moment, avec justement sa plateforme libre, oui, peut-être, OK? Puis là, elle l'admet pas, mais peut-être qu'elle a des problèmes de recrutement. Mais en même temps, ça lui permet d'avoir une nouvelle philosophie de parti qui est un peu plus ouverte, qui est un peu plus calquée sur ce qu'était Québec solidaire avant. J'ai l'impression, on dirait qu'elle s'enligne vers quelque chose comme ça. Plus de comme, on veut ramasser les gens qui sont écœurés de QS. C'est un peu spécial à dire, mais on veut ramasser les gens écœurés des autres partis, puis on va être le parti de troisième rang. On voit qu'elle s'enligne pour peut-être être un bon parti de troisième rang, de troisième banc, mais visiblement, je ne sais pas si...
C'est un peu un recentrage de base électorale, mais souvent, les partisans de Québec solidaire ont un petit penchant souverainiste que Dominique Anglade n'a pas.
Non, non.
Fait que si elle réoriente son parti, je me demande, est-ce qu'elle va venir voler vraiment des votes à un autre parti? J'ai des doutes là-dessus. Mais je pense qu'elle a compris un peu... elle a peut-être eu un peu la même réflexion que moi, c'est-à-dire les tendances changent et maintenant les gens votent en fonction de l'idéologie et non pas des projets nationaux. Là.
C'est ça. Puis visiblement, ce qui va arriver, ce qui pourrait fortement arriver, c'est que le Parti libéral, le Parti québécois, disparaisse presque de la carte politique et que ce soit entièrement la CAQ au centre, QS à gauche et le Parti conservateur à droite pour incarner comme il faut les grandes idéologies. Probablement que ça pourrait arriver, ça, si le Parti libéral décide de continuer à se gauchiser, à devenir de plus en plus à gauche. Ben là, il va laisser la place, beaucoup de place, à un parti de droite fort qui pourrait embarquer. Fait qu'Éric Duhaime, je sais pas si Éric Duhaime deviendrait premier ministre, je pense pas. En tout cas,
je pense que le Parti conservateur pourrait accéder au pouvoir un jour.
Un jour, oui.
Mais avec Éric Duhaime, je sais pas. Il faut voir.
Éric Duhaime, probablement que c'est un bon incubateur pour commencer, pour débuter, pour le faire connaître, le parti. En ce moment, il choque, et en bien et en mal. Hein.
C'est notre Zemmour, au Québec.
C'est notre Zemmour. C'est choqué en bien, choqué en mal, mais choqué, c'est un peu ça. T'sais. On se trouve à choquer. Les gens le connaissent de plus en plus. Et à Montréal et dans les régions, un parti qui était exclusivement presque représenté dans Chauveau. Hein, c'était la seule place où le parti avait des chances de l'emporter, c'était dans Chauveau et à 20% seulement d'intention de vote dans ce comté-là. Là, maintenant, on s'exporte un peu partout au Québec. On entend parler du Parti conservateur. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi, leur plateforme. Électoral. Ben hâte, pas vrai?
Mais le défi du Parti conservateur, ça reste encore de... Oui, ils exportent leur parti puis leur réputation à travers le Québec, mais c'est autre chose que de faire gagner un député.
Ah non, c'est ça.
Si tes intentions de vote sont trop diffuses, ils sont pas représentatives d'une région, d'un comté, comme dans notre système uninominal à un tour, ben c'est difficile d'avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Fait que tu peux avoir les mêmes intentions de vote que le PQ ou les dépasser. Si t'es pas capable de te créer une niche dans certaines régions du Québec, t'es pas gagnant. Non, fait que là, ça. Il va falloir que... Là, en ce moment, le Parti conservateur est en avance dans la région de Québec.
Oui, ici, ouais. Là, mais de vrai, puis c'est pas mêlant, je l'avais presque prédit, Éric Duhaime pourrait se présenter, dans tout cas, il a réduit son choix à deux circonscriptions, Chute de la Chaudière dans Lévis et Chauveau, qui est un peu plus au nord de Québec, là, Lac-Saint-Charles et compagnie. Donc, c'est les deux endroits où il y aurait le plus de possibilités de rentrer, selon les derniers sondages. Vous allez voir sur Québec 125, c'est les deux seuls endroits qui pourraient peut-être rentrer. Il s'est limité à ces deux endroits-là, mais un est conditionnel au départ du député qui est présent. J'ai oublié son nom, malheureusement, mais le député qui est dans la Chute de la Chaudière, bon, pourrait peut-être prendre sa retraite. S'il la prend, là, il pourrait aller là-dedans, mais en tout cas, c'est pas certain encore. Il a une grande popularité dans la région, mais c'est pas certain encore, c'est pas gagné. Mais on verra. On verra surtout dans Marie-Victorin, où ça va jouer. D'ailleurs, on va sans doute avoir une émission animée le jour où la campagne va débuter dans Marie-Victorin, à Longueuil. On va pouvoir voir un peu une idée de ce que ça va donner un peu l'élection générale avec ça. Moi, je pense vraiment que les intentions de vote et le vote qu'on va voir dans cette circonscription-là va peut-être nous aider un peu à voir un peu plus. Ça reste que Marie-Victorin, c'est une circonscription qui est très péquiste au début.
Faut regarder si ça va donner de meilleurs résultats que le Parti populaire du Canada. C'est ce que j'ai envie de te dire. C'est un peu le même phénomène qui se passait aux communes, puis qui se reproduit aux communes dans le reste du Canada, puis qui se reproduit au niveau du Québec.
Mais dans le reste du Canada, on est un peu plus gêné à voter. Hein. On le voit. Là, on, en tout cas, ça a l'air d'être un petit peu... Il y a peut-être juste la Colombie-Britannique qui vote un peu NPD. Là. À part ça, ça reste très conservateur-libéral. Il n'y a pas de gros mouvements. Nous, au Québec, on a des gros mouvements de partis. Ça revire de bord, puis tout côté, puis c'était pas comme ça v'là 30 ans, là, mais on voit que le vote change, alors qu'au Canada, le vote reste quand même assez habituel.
La tendance tire au Québec de plus en plus vers un système proportionnel, alors que Canada, dans le reste du Canada, dans les autres provinces, j'ai pas l'impression que c'est un besoin qui se fait sentir d'avoir un nouveau système de scrutin proportionnel ou proportionnel mixte. Puis justement, cette diversité idéologique-là, souvent, est jumelée à d'autres objectifs, d'autres modes de scrutin. Donc, je pense que ça va ensemble également, là, cette popularité-là. Juste avant la pandémie, notamment, il y avait une commission qui était chargée de regarder un projet de loi pour une réforme du mode de scrutin.
Oui.
Puis ça allait justement dans cette tendance-là là, d'élargir les frontières idéologiques. Puis c'est pas une tendance qui se fait sentir dans le reste du Canada. Fait que j'ai l'impression que le contexte dans les autres provinces au Canada n'était pas favorable pour qu'il y ait le phénomène qui se produit en ce moment au Québec se répète ailleurs.
Ouais, c'est ça.
En faveur du PPC.
Ben c'est ça, tu sais. Bon, en tout cas, on verra qu'est-ce qui va se passer dans Marie-Victorin. D'ailleurs, c'est Anne Cazabonne. Le PCQ a présenté Anne Cazabonne dans
cette... Infoman.
Elle se dit ancienne péquiste. On verra si elle va aller chercher les électeurs qui étaient péquistes dans cette circonscription-là.
Très tendance au Québec de dire qu'on est des anciens péquistes ou des anciens souverainistes.
Presque tout le monde était ancien péquiste ou ancien PLQiste. Donc, c'est un peu normal, mais en tout cas, on verra bien qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Il nous reste encore un petit 5 minutes avant d'aller à la pause. Oui. Puis, je voulais qu'on parle, je sais pas si c'était... En tout cas, ça serait intéressant de parler juste un petit peu de... Finalement, il va y avoir un projet de loi qu'on suggère là, à l'Assemblée nationale pour le...
Lâche pas.
Oui, c'est parce que c'est les... on l'a vu à l'Université d'Ottawa, là. Bon, le lieutenant Duval qui a été renvoyé. Mm-hmm. Bon, tout ça, la liberté universitaire, là, tout ça. Là. Bon, ils veulent mettre une loi pour obliger la liberté universitaire. C'est le résultat de la commission sur, justement, la liberté universitaire dirigée par Alexandre Cloutier, l'ex-péquiste qui s'était présenté contre Pierre-Carl Péladeau aux élections à la chefferie du PQ il y a quelques années.
Ça peut être un débat intéressant au cours des prochaines élections, c'est l'automne prochain.
Donc,
Ben c'est sûr que
liberté universitaire, tu parles.
Ben l'idée, c'est est-ce qu'il faut que le projet de loi aboutisse d'ici les prochaines élections.
Ben c'est ça.
Puis
je sais pas s'ils vont avoir le temps à ce point-là.
Est-ce que ça va mourir au feuilleton?
Probablement mourir au feuilleton, mais c'est une question qui est importante à débattre parce qu'à un moment donné, il va falloir s'assurer sur des... Même si c'est bizarre, par exemple, parce que ça s'est passé en Ontario quand même. L'Université d'Ottawa, c'est pas au Québec. Pourquoi que nous, on a pris... Peut-être que c'était l'Université Concordia.
Ben, on remarque qu'il y a de la censure dans plusieurs universités, au sein des étudiants, au sein des professeurs aussi, des domaines de recherche également. Les sources de financement sont en faveur de certains domaines de recherche. Donc, je pense que c'est comme un... J'imagine qu'il y a un effet miroir avec le Québec où est-ce qu'on on reconnaît le problème, un certain problème dans une autre université, puis on remarque qu'il y a une tendance qui se répète au Québec également. Donc, j'imagine que ça nous touche énormément. Ben,
en espérant que ça sera pour le mieux, ça sera quelque chose à toucher prochainement. J'espère que c'est un sujet qui vous intéresse, parce qu'on va en parler dans les prochaines éditions de notre petite analyse qu'on fait à 694.3. C'est juste la politique que vous écoutez jusqu'à 15 heures, oui.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Il contribue tous les jours à faire avancer la recherche scientifique, que ce soit sur le terrain, en laboratoire ou derrière leurs ordinateurs. Leurs découvertes et leurs idées nous aident à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et à anticiper le monde de demain. Ils sont étudiants ou chercheurs et viennent nous parler de leur projet dans Visage des sciences, une émission présentée par Océane Perrault, disponible en balado sur schiz.ca.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre planète et stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Vous êtes de retour au Chiz 94.3, votre émission politique, juste de la politique. On est ensemble jusqu'à 15h avec moi, Félix Bouffard, ainsi que Antoine Pellan-Raté, juste à ma gauche. Et appel à tous, juste de même, là. Puis peut-être qu'il y a des gens qui travaillent à Télé-Québec qui vont nous entendre, là. Moi et Antoine, on plaide pour un retour de nos élus. Nos élus, la série documentaire qui se passait à l'Assemblée nationale et qui faisait le tour de tout ce... On aimait ça, OK? Puis là, à cause de qu'il y a un député qui était l'étoile montante dans cette série, a été accusé, ben, en tout cas, accusé, pas reconnu coupable, mais accusé de violence sexuelle, ben là, ils ont arrêté la série. Là, nous autres, on aimerait ça qu'ils nous ramènent un semblant de nos élus prochainement.
Pis c'est dommage parce qu'on malgré tout ça, malgré les raisons qui ont amené Télé-Québec à annuler cette émission-là, c'était intéressant de voir la vie familiale de chacun des députés. On trouvait ça pertinent. C'est sûr qu'il y a un petit imbroglio parce que maintenant, Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille, il sort maintenant avec, avec la vice-première ministre. Donc, il y a un petit décalage avec le temps, mais j'aimerais ça. Peut-être que ça repasserait pas à la télé, mais mettre ça sur le site Internet de Télé-Québec, ça pourrait être le fun.
Les limites, moi, je suis prêt à payer.
Faites des coupages, là.
On veut voir quelque chose. Ça serait même intéressant pour une prochaine saison de nos élus, là, partir ça pendant la campagne électorale, là, ça serait intéressant. Allez, on go, go,
go, go, go,
go, go. Bon, le message, j'espère qu'il est passé. Bon, on s'en va voir un peu du côté de nos cacanes. Je voulais juste Benoît Charrette qui... c'est une nouvelle... Oui, c'est ça, Antoine me regarde. Hein, c'était ça qu'on était rendu faire? Oui, on était rendu à ça. Je veux parler de nos cacanes avec Benoît Charrette, qui est notre ministre de l'Environnement, qui aujourd'hui sort que, on va retarder de 6 mois la sortie de la nouvelle loi sur la consigne québécoise. Ben, je sais que ça touche pas grand monde. Il y a des gens qui disent la consigne. Hein. Mais non, pour de vrai, v'là 2 ans, là, avant la pandémie, c'était un sujet d'importance, la consigne. Si on se rappelle, février 2020, tout le monde disait pourquoi qu'on peut pas consigner les bouteilles de vin? Pourquoi qu'on peut pas consigner les bouteilles d'eau? Pourquoi? Ben, tout ça va être consigné, mais pas l'automne prochain, le printemps prochain.
La pandémie a vraiment éclipsé tous les sujets concernant l'environnement.
Oui, c'est vrai.
De la première place dans les médias. Puis c'est toujours au mois de mai, juin, où est-ce que là, l'agriculture reprend et que là, on recommence à se rendre compte qu'il y a des sécheresses, ça coûte plus cher.
Hein,
il faut acheter de l'approvisionnement parce qu'on manque de foin, carrément.
Bref, quand tu veux faire ton jardin et qu'il n'y a plus de tomates, là, quand tu arrives à la serre, t'es fâché, puis là, tu te mets à penser environnement. Mais autrement, il n'y a pas d'environnement ces temps-ci.
Là, à chaque année, il y a une nouvelle qui dit « Attention, l'alcool va coûter plus cher ».
Oui,
là, les gens paniquent, la bière va coûter plus cher. Oh mon Dieu, faut faire quelque chose.
Mais là, avec la consigne, c'est quand même 10 sous de plus qu'on rajoute sur tous les contenants. Mm-hmm. Ça va être 10 cents de plus, mais il faut vous faire rembourser. C'est ça, la consigne. Mais on élargit la consigne plus que ça encore. Là. C'est plus que les bouteilles d'eau puis les bouteilles de vin. C'est aussi les cartons de lait, par exemple, qui vont être consignés. Tout ça va être apporté à l'épicerie où vous l'avez acheté. Fantastique.
On est un peu en train de faire une bonne nouvelle TVA.
Ben oui, la bonne nouvelle, c'est ça qu'on fait en ce moment. Je sais pas si on vole leurs droits, par exemple.
Non.
Mais peut-être que c'est ça que vous allez entendre au bulletin ce soir. Mais c'est ça, du moins, ça a l'air intéressant de voir l'élargissement de la consigne. Puis éventuellement, de diminuer nos déchets, c'est toujours bénéfique, ça. Là. Compostage, allez-y. Je sais qu'à Québec, c'est long. Il n'y a pas trop de compost. J'étais un peu déçu parce que dans mon autre ville que j'avais, où j'habitais, il y avait du compost. S'il n'y en a plus, c'est un peu bizarre. Mais bon, ça s'en vient. C'est des affaires qu'on espère qu'ils s'en viennent. Diminution des déchets. Puis ça peut juste être bon pour l'environnement. Ça va être des sujets qu'on va parler plus éventuellement, surtout l'automne prochain, quand ça va se poser à revenir, cette affaire-là de consignes élargies. Là. Voilà. Donc, là, on était rendu à parler de Québec solidaire. On a eu envie.
Québec solidaire qui propose ce qu'il appelle des brigades vaccinales. Le but, c'est d'éviter de taxer les non-vaccinés, parce que Québec solidaire trouve que c'est une mesure extrême, et de faire du porte-à-porte pour informer les gens et les convaincre de se faire vacciner.
Là,
quand j'ai vu ça tantôt, je me suis dit, ben voyons, mais... il faut les trouver, il faut connaître l'adresse de ces gens-là. Comment tu fais pour faire du porte-à-porte puis tomber le plus possible sur des gens non vaccinés? Ben, selon eux, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'il y ait des gens, je ne sais pas si c'est au niveau public ou au sein du parti même, là, cette proposition-là, de cibler des quartiers où est-ce que les gens dans ces quartiers-là sont moins vaccinés. Ouais, donc, c'est une mesure qui est beaucoup moins drastique qu'une taxation vaccinale, parce que ce que Gabriel Nadeau-Dubois explique, c'est que les gens pas vaccinés en ce moment, c'est des gens souvent qui ont des problèmes d'audition, des gens qui ont certaines maladies mentales, ou ça peut être tout simplement des gens qui parlent pas très bien le français ou pas très bien l'anglais, donc c'est difficile de s'informer puis de suivre un processus pour pouvoir éventuellement se faire vacciner. Non, mais... Donc l'idée, c'est non pas, puis je cite, là, c'est non, ben, je paraphrase, le but, c'est non pas d'amener les gens au vaccin, mais d'amener les vaccins aux gens.
Oui, parce que il y a deux jours, là, le ministre Carman a annoncé qu'on politique de main tendue là, avec le directeur de la vaccination, Daniel Paré était là, puis là, main tendue, on va aller aider les gens. On va aller aider les gens en faisant quoi? Des cliniques dans les quartiers. Des cliniques de vaccination dans les quartiers. Là, on nous dit, c'est pas vraiment, nous, on veut pas vraiment faire ce porte-à-porte, c'est pas ça qu'on veut faire. Le QS se distingue par ça. On veut faire ce porte-à-porte d'un quartier où est-ce qu'on pense qu'il y a le plus de non-vaccinés.
Oui, il y a quelqu'un qui vient cogner à ma porte pour me parler des vaccins. Bon, témoin de Jéhovah, votant.
Oui, témoin ou je suis vacciné, désolé. Ouais, c'est comme, je veux dire, rendu là, qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas vacciné? En tout cas, on verra comment que ça va fonctionner. Si ça s'applique, là, on verra bien. Là. Mais bon, QS... propose, il me semble que brigade.
Brigade, c'est un petit mot. C'est pour ça que c'est automatiquement ce qui me vient en tête, c'est témoin de Jéhovah. Hein, des duos qui viennent cogner à la porte pour t'informer avec un petit sac. Mais c'est, tu vois, c'est surprenant parce qu'à une certaine époque, avoir des vaccins gratuits, c'était vraiment un privilège. Ouais. L'accès aux vaccins. Aujourd'hui, il faut convaincre les gens d'obtenir quelque chose qui est bénéfique pour leur santé. Et qui est gratuit.
Comme donc, mange des vitamines. Ah oui.
Oui, je t'en donne. Il y a un changement de paradigme là, qui date de plusieurs décennies, évidemment. Là. Mais on le voit, on n'aurait pas vu ça là, il y a peut-être 40 ans.
Oui. Ben, fait que c'est ça. Que QS, ces temps-ci, QS a quelques petits sujets là, qui aiment ça, toucher dessus. Là,
Les lecteurs de CO2 dans les écoles.
Les lecteurs de CO2. Ce n'est pas des purificateurs d'air. Là.
Non, non.
Juste des lecteurs de CO2. Mais ça a l'air un peu bénigne, de façon que je le dis. Mais pour de vrai, c'est un des sujets que QS a le plus tablé dans les dernières semaines. C'est, en ce moment, taper sur le clou de... nos écoles sont pas bien ventilées, puis nos écoles sont peut-être dangereuses pour nos enfants puis pour nos enseignants.
Puis, ben, selon eux, la réponse à ça, c'est pas d'ouvrir les fenêtres pour faire geler les jeunes dans les classes.
Oui, comme on a pu voir les dernières semaines.
Donc, ce que Québec solidaire demande, ben, c'est de trouver d'autres alternatives que ouvrir les fenêtres et des lecteurs de CO2 qui pourraient pourtant être utilisés à juste valeur pour éviter les cas de contamination, pour changer l'air, etc.
Ouais, donc on sait que dans d'autres provinces, ils mettent des purificateurs d'air dans les écoles. L'Ontario l'a fait. Pourquoi ici, ça tarde comme ça? C'est ça qu'on réalise à la coalition Avenir Québec. Oui, on s'est fait élire sur « on va aider nos enfants et nos aînés ». C'était ça, on a pu comprendre en gros là, l'élection de 2018. Là. On va aider nos enfants, on va mettre de l'argent dans le système d'éducation. Puis, visiblement, on dirait que c'est en train de devenir l'enfant pauvre, là, l'éducation.
Et puis, on se demande, ça pourrait être un... Ben, c'est un point faible, la CAQ, en ce moment. La CAQ peut facilement se faire attaquer avec sa gestion de la pandémie au primaire et au secondaire. Puis, l'éducation primaire, secondaire, même cégep aussi, université également, pourrait revenir sur la table électorale en l'automne prochain. Donc, je pense que Québec solidaire a facilement repéré le talon d'Achille, la CAQ, et picosse là-dessus. Puis là, c'est ce qu'on continue à voir dans les nouvelles.
Oui, avec la députée de Sherbrooke, que j'ai oublié de son nom. Moi, je connais juste les noms des circonscriptions.
On connaît très bien les députés par leur visage.
Oui,
ils ont grandi où? C'est quoi leur comté? Ils ont combien d'enfants? Ils sortent avec qui? Mais moi et Félix Bouffard, on a un problème avec les prénoms et les noms de famille. Fait que, excusez-nous.
Christine,
on peut vous dire...
Labrie.
Christine Labrie, exactement. En plus, on la connaît bien. Fait que, pardonnez-nous.
prochainement, je vais oublier un député de la région, là. Ça sera pas long. Là.
Oui.
Ben, je pense que ça s'est déjà fait, en plus.
T'as déjà oublié mon nom en onde aussi.
Oui.
Puis on se connaît bien, là.
Oui, t'sais quand...
Peut-être moins que je pensais.
les psys, les psychiatres et toutes les psys de ce monde pourront reconnaître un... peut-être ancien ou toujours TDA qui est à la barre de cette émission.
Ah, deux TDA.
Oh, ah, oh, ah. Non, mais là, c'est ça qui se passe. Mais bon, côté sondage QS, si on finit notre tour QS, là, 1% au dernier sondage léger, le journal, c'est un peu médiocre. C'est sûr que c'est assez jellyfique, là, c'est du jello, là, ce qu'on calcule en sondage, selon, si je reprends les mots de M. Léger lui-même, en intention de vote, c'est rien, mais ça reste que 1%. C'est pas grand-chose. On n'a pas fait sa place beaucoup. L'électorat de QS reste assez semblable. C'est vers qui qu'on pourrait aller gruger? Pas la CAQ,
ben,
visiblement.
Vers les pertes du Parti québécois.
Oui, Parti québécois.
C'est sûr qu'en ce moment, le Québec solidaire est en train de devenir un parti un peu plus de cadre, hein, pour essayer de ratisser un peu plus large chez les électeurs, mm-hmm. d'avoir des propositions qui sont plus gouvernementales, je dirais. On s'éloigne du parti à projet avec le mixte entre le parti de Françoise David, un parti féministe et un autre parti syndical. Là, j'ai l'impression que Québec solidaire se mobilise pour devenir un parti qui peut vraiment accéder au pouvoir avec des propositions plus larges. Donc, j'ai l'impression que oui, Québec solidaire peut aller chercher des votes aux gens qui ne voteront plus pour le Parti québécois. Et d'ailleurs, si la dégringolade se poursuit au Parti libéral, aller chercher des votes chez le Parti libéral.
Et non l'inverse, hein?
comme on a toujours vu.
comme Anglade pense faire en allant chercher les votes de QS. Je pense que QS est assez solide. Je crois même que la prochaine étape pour Québec solidaire, c'est de présenter à la prochaine élection des personnalités. D'ailleurs, dans Marie-Victorin, bon, il présente une ancienne bloquiste qui était passée deuxième, je pense, dans l'équivalent de la circonscription de Gouin, mais au fédéral, j'oublie son nom. Là. Mais non, mais pour vrai, puis elle avait remporté, justement, parlant de nom, hein, la députée qui veut. La candidate qui se présente dans Marie-Victorin pour Québec solidaire est celle qui avait gagné le nom le plus imprononçable des députés. Selon Infoman, l'année passée au fédéral. Donc.
Mais c'est pour cette raison-là qu'on ne s'en rappelle pas.
On ne pourra pas.
C'est bien ça.
Donc, gagnant le nom plus imprononçable, je peux juste vous dire que la députée. Pas la députée, mon Dieu. La candidate qui se présente dans Marie-Victorin, quand même assez solide, était connue dans sa circonscription qu'elle se présentait. Mais là, je ne sais pas si à Longueuil, ça va être pareil. On verra tout le monde. Mais c'est ça. Il faudrait que QS présente des personnes qui ne peuvent pas être pas élues. Des personnes qui ont une trop grande notoriété là, pour... Est-ce que ce parti-là est rendu assez parti, hein, assez solide, on commence à faire la toiture là, du parti?
Il faut trouver des gens connus et mobilisateurs qui acceptent d'être dans le camp de Québec solidaire,
qui pourrait
évidemment.
Accepter
puis souvent,
ça.
C'est difficile de trouver, justement, comme tu dis, des gens connus, parce que quand t'es connu pour la télé, pour la musique, le théâtre, tout ce que tu veux, pour les émissions, ben, ces gens-là ont plus ou moins intérêt à partir en politique, parce que quand tu pars en politique puis que t'as une carrière artistique ou médiatique fructueuse, ben, tu peux perdre beaucoup à partir en politique, parce que quand ces personnalités-là reviennent dans leur métier d'origine, ben là, les gens, ils ne voient que la candidature. Ça s'est arrivé souvent là, à des anciennes sportives ou sportifs olympiques canadiens qui tentent la politique, quittent la politique, et là, c'est une toute autre histoire.
Oui, c'est vrai, on l'a
vu. Donc, le coût de renonciation pour des personnalités connues et populaires d'aller en politique peut être très élevé.
Anne Cazabonne, justement, qui
Cazabonne, je pense qu'elle avait déjà perdu une grande partie de sa popularité puis de sa renommée comme actrice depuis déjà un petit moment. Mm-hmm. Elle faisait plus de publicité, donc c'est comme si elle n'avait plus rien à perdre, veux pas. Elle a tout à gagner, en fait, aller en politique. Elle avait tout à gagner, aller en politique.
Oui. Crois-tu que si elle veut revenir par la suite, si elle n'est pas élue, par exemple, et elle décide de revenir, est-ce que tu penses qu'elle pourrait encore avoir des contrats qui ont du sens ou ça va être trop, sa candidature va trop? Surtout que c'est une candidature dans une circonscription qui est en élection partielle, pas en élection générale. Est-ce que les gens vont trop s'en rappeler?
Oui.
Ah bon?
Quand tu passes Infoman, t'es marqué au fer rouge.
Bon, okay? C'est sûr. Infoman, qui est d'ailleurs une des émissions les plus écoutées, je pense que c'est la cinquième au Québec. Là. La cinquième en moyenne par semaine, qui est celle qui a le plus de codes d'écoute en direct. C'est que. Non, c'est ça. Quand tu passes Infoman, habituellement, T'es fait, c'est ça. Et bon, ben on poursuit. On s'en va à l'international. Là, le gouvernement du Canada, ben en tout cas, avec la Russie puis l'Ukraine, on rentre dans notre fameux dossier qu'on a entendu un petit peu dans notre résumé au début de l'émission.
Le Canada ordonne l'évacuation de membres de son ambassade en Ukraine avec
les familles.
Avec les familles, hein?
Non, les ambassadeurs restent là. C'est les familles qui quittent.
Ben, c'est ça, les membres de son ambassade en Ukraine. On le sait souvent, ben, les diplomates, quand ils s'installent à l'étranger pour leur travail, la famille vient avec ces personnes-là. Et quand la situation devient tendue, ces personnes-là sont rapatriées au pays pour des raisons de sécurité. Mm-hmm. Et aussi, ça peut être facile. Dans un enjeu diplomatique, le but, c'est de trouver des leviers, des discussions puis de négociations. Mais quand il y a une question de la sécurité de la famille de telle ou telle personne qui est en jeu, ça peut jouer dans la balance, dans les négociations. Donc, d'ailleurs, ça, rapatrier les membres de la famille, c'est important. Et ça, c'est une annonce qui est faite juste un peu après les États-Unis et le Royaume-Uni qui avaient ordonné, justement, l'évacuation du personnel non essentiel de son ambassade en Ukraine également. Je pense que c'était lundi. Puis le Canada, c'était mardi, là. Donc, et là, on se demande encore. Là, on avait vu également que le Canada accordait un prêt de 120 millions de dollars à l'Ukraine. À l'Ukraine qui, pourtant, réclame des armes.
Oui. On demande beaucoup de matériel militaire en Ukraine. Je veux dire, ce qui se passe, surtout, ben, le Canada dit faire sa part en donnant des cours de maniement d'armes et de maniement de peloton, des cours de militaires. Est-ce que c'est assez? Comme on a fait, en Afghanistan avec l'armée afghane qui, visiblement, n'a pas su se défendre suffisamment contre les talibans, mais ça, c'est un autre dossier. On est rendu le Canada avec une vocation de faire apprendre les
militaires. On a toujours fait ça, par contre. Ouais, ouais. Faire la formation à l'étranger pour former des groupes de militaires, c'est ce qu'on fait.
Que je vois faire ça.
Des pays qui ont une puissance morale et militaires, jusqu'à un certain point, comme le Canada, vont souvent faire ça.
Wow.
Parce que ça. Puis en même temps, c'est une façon un peu déléguée de faire la guerre. Ça nous rappelle la guerre froide. Hein? La guerre froide, il n'y a pas eu d'affrontement vraiment direct entre des troupes des États-Unis et des troupes de l'URSS. Ben, c'est un peu ça qui se reproduit. Hein? On ne veut pas trop toucher à ça. Et c'est difficile aussi pour les membres de l'OTAN de s'entendre actuellement sur est-ce qu'on on met une garantie de contre-attaque s'il y a une partie de l'Ukraine qui est attaquée par la Russie. C'est difficile, notamment pour les membres, les membres de l'OTAN qui sont en Europe de l'Est, puis que pour eux, ils ont plus de choses à perdre, puis il y a plus de dangers s'ils s'opposent directement, concrètement et explicitement à la Russie.
Oui. Mais là, de la façon que le premier ministre canadien parle, Justin Trudeau, il va y avoir une guerre presque.
Ah,
c'est presque sûr qu'il va y avoir une guerre. Et de l'autre côté, t'as les États-Unis qui sont comme, ben non, il n'y aura pas de guerre. C'est comme un peu...
C'est la job aux Américains de rassurer les gens au sein de l'OTAN.
Mais le Canada, lui, c'est non, on va avoir une guerre, probablement. Même que, bon, la ministre des Affaires étrangères, on le peut entendre aussi dans le résumé, est allée la semaine dernière à Kiev. Ouais. Je sais pas si c'est tant de l'appui que ça. Ça vient avec de l'argent. Mais de l'argent, je veux dire...
On peut se demander, quand vous envoyez votre ministre des Affaires étrangères, est-ce que ça implique des armes? Hein? On n'a pas eu de réponse encore.
Non, pas
c'est ce qu'on veut, là. Je m'en vais chez McDo, je commande des frites. Je veux pas de crème glacée, je veux des frites. Hein? Merci pour la crème glacée, mais je veux des frites pareil. Hein?
Avec beaucoup de crème glacée, tu peux te partir un commerce pour faire des frites. Non,
il faut préciser à l'émission que c'est pas un placement de produit qu'on fait actuellement.
Non, écoute, on peut aussi bien aller dans un autre fast-food très très québécois,
canadien, Tim Hortons, tout ce que tu veux.
On va toutes les dire s'il faut acheter. On se mettra pas à dos personne. Mais non, c'est ça, du côté de la Russie. Tout le monde semble dire, même si du côté des analystes, la semaine dernière, on disait, non, c'est impossible qu'il y ait une guerre.
C'est du bluff. On dirait que
c'est... Ouais, c'est ça.
Le but de la Russie, c'est de faire des gains en faisant du bluff. Et en fait, c'est... L'idée auparavant, c'était, la Russie essaie de tester un peu la réaction de l'OTAN. Est-ce qu'ils sont assez divisés pour que je puisse faire des gains, envahir une partie de l'Ukraine sans que ça me coûte trop cher? Et là, plus le temps passe, plus qu'on voit que oui, si tu te mets à la place de la Russie, oui, je pourrais intervenir en Ukraine et ça ne me coûterait pas si cher que ça. On s'est dit aussi que les revendications de la Russie en termes de on voulait créer une espèce de zone tampon entre les membres de l'OTAN et la Russie pour des raisons de sécurité, ben c'était une façon de trouver des raisons pour justifier une intervention en Ukraine. Mais là, maintenant, la tension monte, puis on dirait que c'était pas tant du bluff que ça, c'est pas tant un levier de négociation, mais ça peut être aussi une réelle intention, un réel besoin, et notamment chez l'électorat en Russie. Ben c'est sûr que bon, les préoccupations électorales en Russie sont moins intenses qu'au Canada, hein, parce qu'on sait quel parti va gagner de toute façon, mais c'est important aussi, peu importe ce qui arrive, mais peu importe si t'es 100% démocratique ou pas, de légitimer la présence d'un dirigeant au pouvoir.
Ça reste que les Russes ont adore Poutine, même si ils sont pas d'accord avec lui toujours.
C'est difficile de pas l'adorer quand là il y a des caméras, des reconnaissances faciales, des caméras absolument partout. La collecte de données est centralisée sur le territoire et peut être analysée.
C'est un ancien espion là aussi.
Oui, les données peuvent être privées, peuvent être analysées à l'insu des Russes par les autorités de façon arbitraire. Donc, c'est difficile maintenant. Il y a un tel contrôle en Russie de l'opinion, des médias sociaux et des des influenceurs, pardon, que ça devient difficile de ne pas l'aimer.
On met dans la tête des Russes que l'Ukraine va sans doute faire encore partie de la famille et tout ça.
L'Ukraine
ne veut pas faire partie de la famille.
L'Ukraine, c'est un peu l'Irak des États-Unis en 2003. Tu sais, c'est un danger. On veut motiver un danger pour justifier des interventions. Puis là, on l'avait vu, bien sûr, il y a la Crimée, il y a la Géorgie qui ont déjà joué là-dedans. Puis là, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a un enjeu pour les Américains en ce moment, que si les Américains ne se montrent pas assez féroces et assez convaincants, ils n'ont pas d'impact significatif sur le conflit entre l'Ukraine, l'OTAN et la Russie. Ça laisse un dangereux précédent pour la Chine. La Chine qui convoite Taïwan, qui renforce ses politiques à Hong Kong. Donc, je pense que les Chinois peuvent regarder ça avec beaucoup d'attention, puis se dire, je vais regarder qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ce conflit-là, puis je vais peut-être, tout dépendant de l'issue du conflit, répéter l'expérience.
Oui, parce qu'on le sait. Puis je pense qu'il y a quand même des chances, parce que la Crimée a été annexée sans réelle opposition. C'est quand même une section du territoire ukrainien qui est annexée avec le port de Sébastopol qui est impressionnant. Les Russes, c'est maintenant un port russe, Sébastopol. Donc, je ne sais pas si peut-être qu'ils vont faire la même chose avec le côté plus oriental de l'Ukraine. Là, ils vont peut-être l'annexer assez rapidement, puis on ne verra pas ça venir.
Il y a des groupes séparatistes en Ukraine actuellement qui poussent en faveur de l'annexion par la Russie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est complètement impopulaire en Ukraine, mais dans une région très précise, c'est populaire.
Donc, peut-être que la carte de l'Ukraine devrait changer dans les prochaines...
Dans
les prochains mois, la carte de l'Ukraine pourrait changer, là, mais c'est ça. Je ne sais pas si ça va être militaire ou si ça va être violent ou si ça va être sanglant. Là. Certains dirigeants comme Boris Johnson disent « ça nous rappelle la Deuxième Guerre mondiale ». Bon, là, je ne sais pas. Là,
ben, ça nous rappelle certainement la conférence de Munich où est-ce que là, tous les alliés avaient tellement espoir d'éviter une guerre après la désastreuse grande guerre qui avait fait tellement de morts que là, on pousse jusqu'à la dernière minute les possibilités de réconciliation qui sont souvent pour l'État qui cherche à faire des conquêtes du bluff, tout simplement, ou une façon de gagner du temps. Donc, il y a plusieurs analystes qui pensent qu'il faut avoir des garanties d'intervention, monter les enchères pour que ça devienne non attrayant pour la Russie d'annexer une partie de l'Ukraine.
En tout cas, qu'est-ce qui pourrait changer? Là, on va terminer là-dessus émission, mais qu'est-ce qui pourrait bien changer la vocation russe de vouloir envahir l'Ukraine? Est-ce que c'est si l'Ukraine décidait d'arrêter de vouloir faire partie de l'OTAN, tout simplement? C'est juste parce qu'en ce moment, la Russie, sa raison, c'est ils veulent faire partie de l'OTAN, puis nous, ça ne nous tente pas. On veut qu'ils fassent partie de notre...
Bien, les revendications en Ukraine datent de longtemps aussi. C'est pas juste... Il y a un ensemble de raisons utilisées par la Russie pour justifier ses politiques militaires actuelles. Mais tu vois que quand il y a des raisons qui sont trop disparates, trop différentes pour justifier un comportement, c'est que vraisemblablement, tu as envie de te dire que c'est des raisons qui sont utilisées pour justifier quelque chose de plus profond aussi.
Mm-hmm. Peut-être identitaire, cette bataille-là, comme on disait, là, pour Russie. Ouais. Les Russes, peut-être, probablement que certains disent que l'avenir politique, peut-être, de Poutine se trouve dans cette guerre-là. On le sait qu'il va gagner les élections.
La question actuellement, c'est est-ce que ça va rester une guerre froide ou ça va être une vraie guerre? Mais quand on parle de guerre froide, on n'exclut pas la possibilité qu'il y ait une intervention militaire directe entre l'Ukraine et la Russie. Quand on parle de guerre froide, c'est qu'il y a les alliés qui supportent l'Ukraine face à distance de façon détachée.
Bon, ben c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Antoine.
Yes.
Et c'est juste la politique. On est là mercredi prochain, dès 14h.
Ça vous tente plus qu'on parle de politique ou d'élection?
Vous écoutez Chiz 94.3 FM, Québec.
Moi, c'est Robert, j'aime vraiment Linux pis des kiwis des nerds.
Et oui, Robert, pour citer un grand homme, l'émission la plus fruitée de la Norderie vous annonce son grand retour. Soyez des nôtres le dimanche midi pour la contre-attaque des kiwis. Sur les ondes de Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Envie d'en apprendre plus sur l'encadrement et sur différents enjeux des cycles supérieurs de l'Université Laval? Tu meurs d'envie de connaître ce qui se passe à l'Allier et dans les associations universitaires des cycles supérieurs? Ça tombe bien!